Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. L'encyclopédie du savoir relatif et absolu des chats de Bernard Werber s'inscrit dans la continuité de son projet encyclopédique fictif centré sur Edmond Wells. Malgré son titre lié aux chats, l'ouvrage relève moins du livre sur le monde félin que d'une compilation d'idées, d'observations et de réflexions typiques de l'univers Werber science, philosophie, mysticisme, humour et curiosité insolite. Le principe reste celui d'une encyclopédie non classique, où l'on rencontre des textes courts, des questions décalées et des pistes de réflexion qui brouillent volontairement la frontière entre savoir établi et hypothèses imaginatives. Le livre vise ainsi un double objectif: divertir par le décalage et stimuler l'esprit critique du lecteur. Il s'adresse à ceux qui apprécient les formats fragmentés, les associations inattendues et les ouvrages qui cherchent autant à faire penser qu'à informer. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une encyclopédie fictive construite comme un laboratoire d'idées. Le cœur du livre repose sur un dispositif littéraire particulier. Il ne s'agit pas d'une encyclopédie informative au sens académique, mais d'une fiction qui emprunte la forme de l'encyclopédie pour mieux la détourner. Bernard Werber utilise ce cadre pour faire circuler des fragments de savoir, des anecdotes, des hypothèses et des paradoxes, souvent sans ordre strict. Cette structure fragmentaire a une fonction précise. Elle empêche le lecteur de consommer passivement un contenu linéaire et l'oblige à établir lui-même des liens entre les thèmes. L'ouvrage devient alors un laboratoire intellectuel où chaque entrée agit comme une expérience de pensée. Cette méthode correspond à l'esthétique de Werber qui mêle vulgarisation, imagination et réflexion. Le résultat est un texte qui n'apprend pas seulement des faits, mais montre aussi comment le savoir peut être organisé, questionné ou détourné. Deuxièmement, Edmond Wells comme figure de savoir et de mise en scène, le personnage d'Edmond Wells joue un rôle central dans l'identité du livre. Présenté comme l'auteur fictif des notices, il donne une cohérence à un ensemble très disparate de textes. Cette présence est importante car elle transforme le contenu en voix plutôt qu'en simple compilation. Wells incarne un savant curieux, parfois sérieux, parfois fantasque, qui navigue entre science, spiritualité et spéculation. En utilisant ce personnage, Werber crée une médiation entre le lecteur et les idées exposées. Le savoir n'apparaît pas comme une autorité froide, mais comme le produit d'une personnalité imaginative. Cette mise en scène permet aussi de maintenir l'ambiguïté fondatrice de l'œuvre. Le lecteur sait qu'il lit une fiction, mais cette fiction est remplie d'éléments qui imitent le discours du savoir. Edmond Wells n'est donc pas seulement un narrateur fictif. Il est un outil littéraire qui questionne la légitimité de celui qui parle et la façon dont une idée devient crédible. Troisièmement, le mélange des sciences, des mythes et des pratiques culturelles est un des traits les plus marquants du livre et le brassage constant entre des domaines très éloignés. Les notices peuvent passer de la physique quantique à des légendes, de questions animales à des recettes de cuisine, de la mythologie à l'histoire des civilisations. Ce mélange n'est pas gratuit, il reflète l'idée que le savoir humain ne se laisse pas réduire à une seule discipline. Werber rapproche des registres habituellement séparés pour montrer que la curiosité peut circuler entre les sciences dures, l'anthropologie, la philosophie et l'escroyance. Cette hybridation donne au livre une portée culturelle large, car elle ouvre des passerelles entre des formes de connaissances souvent cloisonnées. En même temps, elle produit un effet de surprise permanent. Le lecteur doit accepter de passer d'un sujet à l'autre sans hiérarchie apparente, ce qui rend la lecture dynamique mais aussi déstabilisante. L'intérêt de cette méthode réside dans sa capacité à faire exister le savoir comme réseau plutôt que comme classement. Quatrièmement, une réflexion sur la frontière entre information, fiction et vérification. Le livre vaut aussi comme commentaire sur la manière dont nous recevons l'information. Werber y insère des éléments réels, des extrapolations plausibles et parfois des inventions assumées, ce qui oblige le lecteur à rester vigilant. Cette ambiguïté n'est pas un défaut accidentel, elle fait partie du projet. En brouillant les niveaux de vérité, l'ouvrage invite à exercer un regard critique sur tout ce qui se présente comme un savoir. Cette dimension est particulièrement intéressante dans un contexte où la circulation d'informations rapides peut faire oublier la nécessité de vérifier les sources. L'encyclopédie devient alors une leçon de méthode plus qu'un répertoire de réponses. Elle rappelle qu'une idée séduisante n'est pas forcément vraie et qu'une lecture active suppose du discernement. Le livre se distingue ainsi des ouvrages de vulgarisation classiques, car il ne cherche pas seulement à transmettre des contenus, mais à entraîner le lecteur à douter, comparer et recouper. En dernier lieu, une lecture ludique pour curieux de science et d'insolite, l'ouvrage trouve sa place auprès des lecteurs qui aiment les livres de curiosité, les essais fragmentaires et les objets littéraires hybrides. Son intérêt ne tient pas à une démonstration continue, mais à la multiplication de petits chocs intellectuels. Chaque fragment peut servir de point de départ à une recherche personnelle, à une discussion ou à une relecture des connaissances acquises. cette dimension ludique est renforcée par l'humour, les paradoxes et les associations inattendues qui empêchent le texte de devenir purement didactique. Le livre est donc moins un manuel qu'un stimulant intellectuel. Il peut séduire les amateurs de Bernard Werber, les lecteurs de science-fiction curieux de philosophie, ou plus largement toute personne sensible aux formes courtes qui mélangent information et imagination. Sa valeur pratique réside dans cette capacité à élargir le champ de pensée sans imposer une doctrine unique. C'est un livre à parcourir, à interrompre et à reprendre plutôt qu'à lire d'un trait. En conclusion, l'encyclopédie du savoir relatif et absolu des Schatz s'adresse avant tout aux lecteurs curieux, à ceux qui aiment les livres, qui ne se contentent pas de raconter, mais qui provoquent des associations, des doutes et des rapprochements inattendus. Elle conviendra particulièrement aux amateurs de Bernard Werber, aux lecteurs de science-fiction intellectuelle et à ceux qui apprécient les objets littéraires à la frontière de l'essai, de la fiction et de la vulgarisation. Son principal intérêt est de transformer la lecture en exercice de vigilance et de curiosité. On n'y cherche pas une vérité stable, mais une manière différente d'interroger le monde. En cela, le livre offre un bénéfice intellectuel clair. Il entraîne à lire de façon critique, à accepter l'incertitude et à relier des savoirs dispersés, ce qui le distingue des ouvrages proches et son statut hybride. Là où une encyclopédie transmet normalement des connaissances ordonnées, Werber propose une encyclopédie fictive, ludique et volontairement décalée, qui fait du doute et du mélange des disciplines sa véritable méthode. Si vous souhaitez soutenir Bernard Werber, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.